France Inter.
Et pour le journal, c'est Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour Karine, bonjour à tous. À la une de ce 13h, 10 nouvelles interpellations en France et en Europe. Après l'arrestation hier en Roumanie du narcotrafiquant français Mohamed Amra, opération minutieusement coordonnée, nous détaillera Emmanuel Leclerc. Nous serons à Mulhouse, là encore avec de nouvelles gardes à vue, au lendemain de l'attaque au couteau qui a coûté la vie à un sexagénaire tué par un Algérien qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Journée d'élection législative cruciale en Allemagne avec... Quelles conséquences pour le couple franco-allemand? Eh bien, nous poserons la question à notre invité. Et puis, il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin à propos du succès du French Cancan, une danse inscrite dans l'histoire de France.
La goulue, évidemment, la plus célèbre. Il y avait aussi Nidimpat en l'air, la sauterelle. Et puis, il y avait une qui s'appelait la pauvre grille d'égout parce qu'en fait, il lui manquait des dents.
Et les prévisions. Et puis le temps de ce dimanche, Céline Dacosta, ce sera calme et ensoleillé.
Oui, et on en profitera parce qu'une nouvelle perturbation arrive déjà par le nord-ouest.
Et on fera un point complet avec vous dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
L'arrestation hier de Mohamed Amra en Roumanie annonçait en fait une opération de police bien plus vaste. On a appris ce matin que depuis hier, 10 nouvelles interpellations ont eu lieu en France et en Europe. Mohamed Amra, narcotrafiquant français, recherché depuis son évasion il y a 9 mois sur le péage autoroutier de Incarville en Normandie. Un commando lourdement armé avait tué 2 agents pénitentiaires. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Cette série de gardes à vue est donc l'aboutissement d'une enquête qui a donc été minutieusement coordonnée.
Oui, les BRI, les brigades de recherche et d'intervention de la police judiciaire avaient été mises en alerte dès vendredi soir en Normandie. C'est l'arrestation de Mohamed Amra à Bucarest qui a donné le signal pour déclencher ce coup de filet dans la soirée d'hier et cette nuit. Cela faisait des semaines en fait que des membres présumés du commando qui avait ouvert le feu en mai dernier avaient été logés, comme disent les policiers, repérés. Mais il fallait avant cela trouver l'ennemi public numéro 1. Il y avait d'abord eu une piste en Espagne où une planque d'un proche était surveillée selon nos informations. Il y a d'ailleurs eu une interpellation en Espagne à Malaga hier sans qu'il n'y ait à ce stade de lien officiel avec cette affaire. Ensuite, c'était l'entourage proche surveillé depuis des semaines, là encore, des hommes qui ont grandi avec Mohamed Amra à Évreux, notamment des suspects qui avaient pris le contrôle de certains trafics de drogue avec lui. Il y a quelques minutes, la procureure de Paris, Laure Becquiot, a confirmé l'ampleur de ce coup de filet avec des suspects en garde à vue pour avoir participé à la préparation de l'évasion, à l'attaque au péage d'Incarville et d'avoir favorisé la dissimulation du fugitif durant ces 9 derniers mois.
Et concernant la Roumanie, Emmanuel.
Alors, oui, pour Mohamed Amra, après confirmation de son identité par reconnaissance faciale et comparaison d'empreintes digitales hier, les autorités judiciaires à Bucarest devraient statuer dans la journée sur les 3 mandats d'arrêt envoyés par Paris.
Emmanuel Leclerc, service police-justice de France Inter. Un conseil interministériel aura lieu mercredi consacré au contrôle de l'immigration, conseil prévu de longue date, mais qui interviendra 4 jours après l'attaque hier à Mulhouse, attentat qui a fait 1 mort et 7 blessés, nouveau bilan. 7 blessés dont un policier municipal grièvement atteint. L'assaillant est un Algérien radicalisé en situation irrégulière en France, on va en reparler. Depuis ce matin, sa garde à vue est prolongée, 3 autres personnes sont placées en garde à vue. La maire de Mulhouse envisage un rassemblement de solidarité envers les victimes. Bonjour William Delesseux.
Bonjour Eric.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à Mulhouse. On a ce matin une idée un peu plus précise du profil du suspect.
Il s'appelle Brahim A, le nom de l'assaillant du ressortissant algérien de 37 ans vient d'être donné par le parquet national antiterroriste qui poursuit son enquête entre Paris et ici à Mulhouse. Le suspect est radicalisé, il a crié, on le rappelle, à plusieurs reprises à la Akbar. Au moment de l'assaut, il peut être retenu, interrogé durant 96 heures de garde à vue, voire 144 heures, 6 jours à partir du moment de son interpellation par les policiers municipaux hier. 3 autres suspects sont également retenus. Il s'agit de 2 personnes, membres de l'entourage de l'assaillant, puis de son hébergeur potentiel.
La maire de Mulhouse parle d'une population sidérée. Eh bien, vous l'avez vérifié ce matin, William, en retournant sur les lieux de l'agression à proximité du marché du canal couvert.
Oui, place du marché dans la ville du Haut-Rhin, un ruban police entoure l'esplanade qui hier à la même heure accueillait encore les étals, un quartier bien vide ce midi comme sonné. Sabrina et Claude sont venus voir la devanture jaune du marché couvert.
Pour se recueillir, rendre un petit hommage aux victimes. Et c'est aussi un lieu où on a l'habitude, nous, personnellement, de venir faire nos courses. Et c'est vrai qu'on a été choqués.
Oui, voilà. À quelques heures près, ça aurait pu être notre tour. Et puis voilà.
Certes, la billette va continuer, mais j'avoue quand même que maintenant, quand je vais venir ici, je vais quand même avoir cet événement un peu dans un coin de ma tête et quand même avoir une certaine peur. Peut-être être plus attentive à l'environnement autour de moi.
Moi non, pas du tout, parce que sinon les terroristes auront gagné.
Et vous dire qu'un rassemblement de recueillement est prévu par la mairie de Mulhouse, qui a également appelé dans le même temps au calme.
William Delesseux, en direct de Mulhouse, où l'assaillant radicalisé avait obligation de quitter le territoire français. Une OQTF relancée à 10 reprises auprès du consulat algérien, c'est ce que précise Bruno Retailleau, qui reproche à l'Algérie son manque de coopération. Un discours de fermeté, mais qui ne convainc pas le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, estime au contraire que le ministre de l'Intérieur favorise la communication aux actes.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Et journée d'élection législative cruciale en Allemagne. L'opposition conservatrice part largement favorite. L'extrême droite donnée en deuxième position. Plus de 59 millions d'électeurs ont jusqu'à 18h pour élire leurs députés. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Berlin et vous êtes devant l'université technique de la ville qui a été transformée en bureau de vote et ça ne désemplit pas.
Oui Eric, à midi, un électeur sur trois a déjà voté dans ce bureau, dans l'une des trois salles de cours du rez-de-chaussée. On a rangé dans un coin les tables, les chaises pour installer les isoloirs. Myriam, 49 ans, sort du bureau 807.
Je vote toujours, mais aujourd'hui c'est particulièrement important parce qu'on a en Europe, dans le monde et ici en Allemagne une tendance populiste et d'extrême droite qui m'inquiète. C'est pour ça qu'il est primordial que beaucoup de gens aient voté.
Deux thèmes auront dominé la campagne, la relance de l'économie et l'immigration, ce qui frustre Wiebke, une avocate berlinoise.
Pour moi, ce n'est pas l'immigration le plus gros problème, mais plutôt la justice sociale, le logement et le climat. Des sujets qui ne sont pas du tout abordés par de nombreux partis et qui ne sont pas des priorités. Et donc ça complique le choix.
8 candidats sont en lice dans cette 79e circonscription. La CDU, le SPD, l'AFD, les Verts, le FDP. Tous les principaux partis sont représentés. Andreas, qui travaille dans le marketing, a voté pour les conservateurs pour faire barrage au chancelier Olaf Scholz.
Tout est bloqué, on ne sait plus comment avancer. Le gouvernement a été incapable de résoudre les questions importantes. Il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. On a vraiment besoin d'une nouvelle politique avec de nouvelles idées.
Premières estimations, première tendance, dès la fermeture des bureaux à 18h, si les sondages ont vu juste, le prochain chancelier allemand s'appellera Friedrich Merz.
Et on vérifiera ça ou pas dans le journal de 19h, Sébastien Baer, en direct de Berlin. Bonjour Hélène Millard de la Croix.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université. Le conservateur Friedrich Merz est donc favori pour devenir le prochain chancelier. Comment cet homme, longtemps brocardé comme un homme du passé, est parvenu à incarner l'avenir au regard des Allemands ?
Alors peut-être, comme l'a dit votre correspondant, l'opposition conservatrice va profiter des mauvais résultats du gouvernement sortant et c'est au fond la seule alternative si on ne veut pas voter extrême droite. Donc de ce point de vue, il est sorti alors qu'il appartient à ce paysage de la CDU, le parti d'Angela Merkel. Simplement, il était parti dans le privé parce qu'il n'avait pas réussi à aller suffisamment de l'avant. Il n'avait pas été choisi déjà comme favori. Donc il revient, mais avec, là, cette fois-ci, un certain nombre de chances d'être chancelier.
Et il a laissé donc entendre que le cordon sanitaire entre la droite et l'extrême droite allemande ne serait plus un dogme. Est-ce une idéologie chez lui ou plutôt du pragmatisme ?
Alors, je dois vous corriger. Il a dit et répété que le cordon sanitaire continuerait. Comme on dit en allemand, la porte anti-feu, ce qu'il a simplement...
Mais il est prêt à faire des rapprochements au cas par cas.
Alors, ce qui a été ébranlé, c'est le fait que des sujets qui sont importants et qui sont poussés par l'extrême droite puissent être aussi traités par les gouvernements enfin fondés sur des partis démocratiques. Et donc, ça a été tout le débat au milieu du mois de janvier, lorsque a été avancée l'idée de qu'il fallait agir beaucoup plus efficacement aux frontières, contrôler beaucoup plus, etc. Et l'AFD a très habilement soutenu ce projet et donc a molli d'une certaine façon cette impression qu'il y avait un corset sanitaire.
L'extrême droite allemande pourrait donc devenir ce soir la deuxième force politique du pays. Est-ce que ça signifie pour autant que l'AFD fera partie de la prochaine coalition allemande ?
Alors ça a été exclu. Ça a été exclu fortement et à plusieurs reprises, encore ces derniers jours, par le candidat Friedrich Merz de la CDU, qui va se trouver donc dans la situation, selon le résultat des élections, selon le nombre de partis qui vont réussir à entrer au Parlement, puisqu'il y a un barrage à moins de 5%, selon le gouvernement qu'il va réussir à construire avec d'autres partis contre lesquels il est en train de se battre actuellement et avec lesquels il va falloir faire des compromis.
Avec Friedrich Merz comme chancelier, on ne parlerait plus de couple franco-allemand, mais de trio, la Pologne en plus. Pourquoi Merz veut-il se tourner vers la Pologne ?
Alors, Friedrich Merz a évoqué ses grandes idées pour la politique étrangère au milieu du mois de janvier, et il a souligné de manière très solide que le couple franco-allemand était important, mais qu'il fallait finalement faire beaucoup plus fonctionner ce qu'on appelle le triangle de Weimar, que la Pologne était le troisième grand pays très important dans l'Union européenne sans le Royaume-Uni, et que pour des questions aussi géostratégiques et géographiques, la Pologne était aux premières loges des difficultés que l'on avait avec le voisin russe. On peut de ce point de vue, enfin ça a été ce qu'a annoncé Friedrich Merz, être plutôt optimiste dans la mesure où il a évoqué la nécessité d'un sursaut, de faire front face aux difficultés auxquelles l'Allemagne est confrontée. Et en effet, on peut miser sur une action très rapide, en urgence, avec les deux voisins principaux de l'Allemagne, la France et la Pologne.
Merci beaucoup de cet éclairage, Hélène Millard de la Croix, professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université. Le pape François est toujours dans un état critique. Il a passé une nuit tranquille, si l'on en croit le communiqué du Vatican ce matin. Et à Rome, aujourd'hui, la messe de l'Angélus. À cette messe, les fidèles inquiets pour lui ont prié. À la basilique Saint-Pierre de Rome, reportage de Xavier Sarthe.
Malgré l'absence du pape, les chants résonnent comme d'habitude sous les voûtes de la basilique Saint-Pierre. Monseigneur Fisichella, le grand organisateur du jubilé, le grand pèlerinage de cette année à Rome, le remplace et il a un mot pour lui avant de lire l'homélie que le pape avait prévue.
Papa Francesco, benché in un letto dell'ospedale.
Le pape François, bien qu'il soit sur un lit d'hôpital, nous le sentons proche de nous le sentons présent parmi nous. Cela nous oblige à prier encore plus fortement, plus intensément, afin que le Seigneur l'assiste dans son épreuve et sa maladie.
Sur la place Saint-Pierre, difficile de distinguer des supporters français de rugby ou des touristes, les fidèles inquiets. Parmi eux, Carmella, elle regrette évidemment que le pape ne soit pas là ce dimanche.
Je sens évidemment l'absence du pape. Je regarde la fenêtre d'où il parle habituellement et je dois reconnaître que je suis vraiment désolée. Malheureusement, la situation empire, l'âge est là, on doit accepter tout ce que Dieu veut. Espérons qu'il surmonte ce triste et douloureux moment.
Selon les dernières nouvelles en provenance du Vatican, le pape a eu de nouveau recours à de l'oxygène à haut débit par le nez ce matin, mais la crise d'hier semble être en grande partie passée.
Un reportage ce matin à Saint-Pierre de Rome, basilique. Au nord de la Cisjordanie, 40 000 réfugiés palestiniens ont été évacués ce matin de trois camps. Des camps de réfugiés vidés donc par l'armée israélienne. Israël qui interdit le retour des populations. Et ce matin, le Hamas accuse Israël de mettre la trêve en grand danger. Hier, la libération de 602 prisonniers palestiniens a été reportée. C'est une façon pour Israël de dénoncer les mises en scène organisées par le mouvement islamiste palestinien qui exhibe les otages libérables sur des podiums face à la foule. Une trêve fragilisée donc, ce qui inquiète les habitants de Jérusalem-Est, là où vivent des Palestiniens en grande majorité. Écoutez ces échanges recueillis dans la vieille ville par notre envoyé spécial Simon Le Baron.
Il est en colère, ce monsieur juif qui s'avance vers nous, barbe blanche et casquette noire. Si vous ne respectez pas votre contrat, Je ne respecte pas le mien. » Il parle du Hamas, coupable d'avoir renvoyé dans un premier temps un autre corps que celui de Shiri Bibas, morte avec ses deux enfants à Gaza.
«
D'accord, dit-il, donc immédiatement, le contrat est rompu. » Il pense même que le gouvernement israélien n'est pas assez fort, pas assez dur.
«
Nous voulons la paix, » dit timidement sa femme.
«
Mais quelle paix si vous voulez tout prendre, si vous voulez tout ?» C'est un chauffeur de taxi palestinien qui intervient. « Et nos prisonniers, pourquoi ils ne les ont pas libérés ?»« Il y a eu une petite erreur avec le corps de cette femme, ça arrive ?» Quand tu bombardes un bâtiment entier, tu peux identifier tous les corps. Il assure que le Hamas, la politique, ça ne l'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la paix. Il ne peut pas y avoir de paix à Jérusalem.
Simon le Baron à Jérusalem-Est. Au Liban, ils sont venus ce matin vêtus de noir. Des dizaines de milliers de partisans du Hezbollah rassemblés à Beyrouth pour les funérailles de leur chef. Hassan Nasrallah a été tué il y a près de 5 mois lors d'une frappe israélienne, Nathanaël Charbonnier.
Oui, il fait froid ce matin au Liban, mais cela n'a pas empêché des dizaines de milliers d'hommes, vous l'avez dit, de femmes, d'enfants, et bien de prendre place dans les gradins de la cité sportive à la périphérie sud de Beyrouth. Les images, comme souvent dans ce genre de moments, sont impressionnantes. La majeure partie des personnes présentées se présentent sont habillées en noir. Des femmes pleurent en brandissant des portraits de combattants tués lors de la guerre. Il y a également ces drapeaux du Hezbollah, jaune et vert, qui flottent au-dessus de la foule, auxquels s'ajoutent d'immenses portraits d'Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah pendant 32 ans, tué le 27 septembre dernier dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de la capitale. Son successeur lui a rendu hommage en le qualifiant de héros et en affirmant que le chemin de la résistance va continuer.
Donald Trump a demandé hier à Elon Musk d'être plus agressif dans les coupes des dépenses publiques. Eh bien, le message a été parfaitement entendu par le milliardaire qui somme donc les fonctionnaires fédéraux de rendre compte par écrit de leur activité récente. Il s'agit ni plus ni moins de justifier leurs fonctions. Les fonctionnaires ont 48 heures pour s'exécuter sous peine de perdre leur emploi et l'absence de réponse sera considérée comme une démission, précise le milliardaire. Et en France, le débat sur les retraites va reprendre dans quelques jours. Eh bien, à l'instant, le gouvernement précise que revenir sur les 64 ans pourrait être une erreur très grave. À suivre, les bonnes ondes de Sandrine Houdin, second épisode sur les traces de la goulue. Sandrine a testé à un cours de French Cancan, cette danse emblématique de la France avec son lever de jambes né au 19e siècle et dans le rôle du professeur Fanny Rabas du Moulin Rouge.
Fredonner, ça on sait faire.
Allez, youhou ! Qui ne connaît pas le French Cancan, c'est connu.
Enfin, les origines.
Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas.
Le French Cancan, qui l'a créé et pourquoi ?
Oh là. Je veux dire des hommes.
Des hommes ?
Bah, je pense.
Monsieur, qui a pu inventer le French Cancan ?
Oh, bonne question. Je sais pas. Tu sais, toi ?
Le French Cancan ?
C'est pas dans les saloons, ça ? Les saloons, les Western, non ?
Pourquoi ça vous fait marrer ?
Parce que...
En fait, vous n'y connaissez rien.
Non, j'y connais rien. Vous savez, vous ?
Non.
La réponse.
C'est des femmes du peuple, des lingères, des cousettes de Montmartre qui ont inventé des figures pour se moquer un peu des institutions comme l'armée, l'église ou le gouvernement. C'est extrêmement choquant et pas très commun à l'époque. Elles dansent seules, ce qui ne se fait pas. On les prend parfois pour des folles. Et en plus, elles montrent leurs dessous en soulevant leurs jupes. Au 19e siècle, les femmes ne montraient même pas leurs chevilles. Ce sont les premières féministes.
Et chacune avait son petit surnom.
Bon, la goulue, évidemment, la plus célèbre. Il y avait aussi Nidine Patenlère, la sauterelle, et puis il y avait une qui s'appelait la pauvre grille d'égout parce qu'en fait il lui manquait des dents.
On les appelait les cancaneuses, d'où le nom French Cancan.
French parce qu'évidemment c'était une danse typiquement française, et cancan parce que cancan ça veut dire faire du bruit. Quand elles dansent, elles font du bruit à la fois avec les bottines de leurs talons sur le parquet et aussi avec leurs cris.
Allez. Le costume.
Il y a la bottine de cancan qui est fabriquée par la maison Clairvoy qui a été créée en 1945.
Je me permets.
Ce sont des bottines qui sont faites à la main en cuir sur mesure. Vous savez combien de French cancan les danseuses peuvent danser avec cette paire de bottines avant qu'on la change ? 2500 French cancan.
Quant à la jupe, impressionnant.
Si on défait tous les volants, il y en a en fait 150 mètres.
Une seule jupe.
Une seule jupe de French cancan, il y a 150 mètres de froufrou.
Ça doit être lourd, du coup.
C'est assez lourd.
Surtout pour les figures acrobatiques. Eh bien, tiens, justement, les figures. Si je vous dis port d'armes, ça ressemble à quoi ?
Port d'armes ? Je ne sais pas.
Cathédrale.
De Notre-Dame ?
Non.
Une figure du French Camp.
Elle lève la jambe. Mais pourquoi? Faire voir leur culotte, peut-être, je sais pas.
Vous ne savez pas pourquoi?
Ah non, non.
La cathédrale, c'est quand deux danseuses mettent leurs jambes face à face, ça symbolise le toit d'une église, donc c'était une manière de se moquer du clergé. Le port d'armes, c'est quand une danseuse prend sa jambe et elle va la monter, son pied va devoir toucher sa tête, comme si elle portait un fusil. C'était une manière de se moquer de l'armée. Et puis, il y a le fameux coup de cul qui est très amusant. Les danseuses se retournaient et soulevaient leur jupe pour montrer leur culotte. En fait, c'était une manière de dire, voilà, pardon de ma vulgarité, j'emmerde le pouvoir en place, en fait.
Vous le faites?
Non. Je me relève pas après. Ou alors vous, vous le faites. Je le fais avec vous.
Incapable.
Le French Cancan dans les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Le temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec des éclaircies bien présentes cet après-midi.
Oui, du soleil et aussi pas mal de passages nuageux, mais globalement c'est une après-midi calme. On a quand même deux zones où c'est plus mitigé. La première, du Jura au Languedoc-Roussillon, où la perturbation d'hier traîne encore un petit peu. Elle apporte un ciel partagé entre nuages, éclaircies et encore quelques averses. La deuxième zone, c'est sur la Bretagne, où une nouvelle perturbation s'engouffre avec un ciel bien couvert, des averses, du vent. Et ces averses, elles vont gagner le Cotentin dans la soirée et puis toute la moitié nord, ça c'est pour demain.
Et les températures toujours assez douces, hein, même bien douces.
Oui, c'est vrai, digne d'un mois d'avril, même hein, 14 degrés à Paris et à Nantes, 15 degrés à Nancy et à La Rochelle, 16 degrés pour Toulouse et Marseille cet après-midi, 17 à Clermont-Ferrand, jusqu'à 20 degrés pour la maximale à Ajaccio.
Les prévisions de Céline Dacosta.